Je vais leur laisser la parole et ils vont vous présenter leurs invités.
Bien, bonjour, je ne sais pas encore bonsoir. En effet, nous sommes des températeurs. Le sujet du jour, c'est la place du livre de poésie et en librairie et en bibliothèque. Il va de soi que si le livre de poésie ne circule pas, n'est pas acheté en bibliothèque, n'est pas lu acheté en librairie et lu en bibliothèque, eh bien c'est une situation douloureuse pour les auteurs et pour les éditeurs. Et on voudrait s'interroger dans le cadre des états généraux de la poésie sur la situation qui est celle du livre. Je voudrais dire deux petits mots sur l'Union des poètes au préalable. L'Union des poètes est une association auquel ce soir deux membres actifs participent. Nous, Martine Konersky et moi-même, nous sommes membres actifs de cette association qui a pour vocation de défendre la poésie et les poètes aujourd'hui et de favoriser la circulation du livre de poésie et sa diffusion le plus largement possible. Donc ce débat est très cohérent avec nos objectifs. Ce soir, nous avons des invités que Martine vous présentera. Et je voulais simplement vous souhaiter la bienvenue et lui passer la parole.
Alors avec nous aujourd'hui, nous avons donc deux libraires et deux bibliothécaires qui nous ont fait la gentillesse de venir. Je commencerai par Natacha de la Simone, que bon nombre d'entre vous connaissent, qui est libraire responsable de la librairie L'Atelier à Paris, qui est une librairie très connue du 20e arrondissement de Paris, qui est organisée en trois espaces. Natacha de la Simone œuvre beaucoup pour la littérature, les sciences humaines et la poésie. C'est à ce titre qu'elle est avec nous aujourd'hui. Peut-être dans l'ordre du plateau, ça sera plus simple. Pascal Leray est bibliothécaire, il est conservateur, bibliothécaire et auteur également, je devrais dire, actuellement, à la médiathèque Hector Berlioz au Conservatoire de Paris. Il est bibliothécaire depuis plus de 15 ans, c'est ça ? Plus de 15 ans. Il organise diverses initiatives autour de la poésie en bibliothèque, dans le cadre du Printemps des Poètes ou autres. À côté de lui, Valérie Rouxel, qui est également bibliothécaire, en médiathèque dans le département de Seine-et-Marne. Elle intervient notamment en matière de lecture publique, si j'ai bien pris mes informations, et développe diverses compétences également en cinéma documentaire ou en action culturelle dans les collèges. Et elle s'occupe également de résidences d'auteurs. À ma gauche, Olivier Renaud. Olivier Renaud qui a grandi à Ottawa, qui est arrivé à Paris en passant par la Sorbonne et qui est arrivé dans mon quartier, je dois dire, dans le 14e arrondissement, où je l'ai découvert avec bonheur. C'est un libraire qui dirige une librairie qui s'appelle La Petite Lumière et qu'il a eu le grand courage de racheter il y a 2 ans, puisque c'était une librairie de l'arbre à lettres. Il est aussi auteur de livres sur Paris, différents quartiers de Paris, Montparnasse, Montmartre, et également sur des peintres comme Cézanne ou Bonnard, et actuellement prépare un livre sur Blaise Cendrars.
Alors, je voulais excuser l'absence de Manuel Dole, qui était aussi... qui devait être parmi nous, qui est à la fois écrivain et libraire. Je parlerai, si je peux, un peu pour lui, parce que nous partageons un éditeur, et de surcroît, on a fait pas mal de choses ensemble. Il est un libraire qui a cessé d'être libraire il y a quelques mois, et sa librairie avait une spécificité, c'est qu'elle n'était une librairie que de poésie, ce qui est assez rare. Ce n'est pas parce qu'elle, ça ne marchait pas qu'elle s'est arrêtée, parce qu'il a des problèmes de santé. Et il a dû s'arrêter. Voilà.
Donc on va lancer ce débat par une première question qui s'adresse et aux libraires et aux bibliothécaires. Finalement, quelle est la place de la poésie dans votre librairie ou dans votre bibliothèque ?
On va peut-être poser la question à Natacha pour commencer.
Peut-être que je vais devoir rappeler en deux petits mots. Forcément, je pars de mon quotidien et de l'expérience de la librairie. C'est une librairie qui fait 150 mètres carrés, qui est divisée en 3 parties. Et la partie littérature et sciences humaines, qui inclut donc l'espace poésie, fait à peu près 80 mètres carrés. Alors, est-ce que je dirais qu'elle a une place de choix ? Tout est en librairie, on travaille beaucoup où ça se répartit. Et plus vous allez loin dans le magasin, plus on a l'impression que c'est abandonné et mis au fond. Et on nous fait souvent la réflexion, ah oui, mais ça, c'est tout au fond, et avec un petit son de reproche. Et il se trouve que la poésie, elle est franchement en face de l'entrée et qu'elle fait deux bibliothèques. Et donc, ce n'est pas un petit bout de rayon dans un coin. En nombre de volumes, ça représente 5% du nombre de volumes total, c'est-à-dire à peu près en ce moment, c'est 1500 volumes sur un total de 26 000 volumes. C'est le côté un peu chiffre. Et en chiffre d'affaires, pour continuer dans les chiffres, ça fait 4,5% du chiffre d'affaires. C'est-à-dire 4 fois celui de la SF, par exemple. Si, j'imagine qu'en fait, on est obligé de réfléchir par rapport en comparant, c'est-à-dire quel est le rayon qu'on va mettre devant, quel est celui qui, de toute façon, sera plus loin, quel est le rayon pour lequel on va avoir plus de références et lequel on va un peu sacrifier. Et de fait, à l'atelier, la poésie essaie d'avoir un peu son espace. Il y en a plus que le théâtre, par exemple. Proportionnellement, je vous donne un chiffre national. Le chiffre d'affaires, vous me contredisez, en 2014 de la poésie, c'était 0,5% théâtre compris. Pour que vous ayez un ordre d'idée des proportions.
Et en ce compris, les grandes collections Gallimard, etc., qui sont quand même un volume qui se vend plus que beaucoup d'autres choses.
Là, peut-être qu'on a une spécificité. On en a, bien sûr. J'ai malheureusement pas préparé la proportion, mais et peut-être que ma collègue qui est là pourrait me contredire ou non, valider, mais je pense que sur le total des éditeurs, ça représente, je dirais, moins de 20% du total des éditeurs.
D'accord, ouais, très bien. On peut continuer la revue, si vous voulez bien. Pour les libraires, vous êtes plutôt médiateur, libraire, donc Olivier Renaud va peut-être parler en premier.
Ça marche, oui. Donc nous, La Petite Lumière, c'est une librairie de 90 mètres carrés qui se situe près d'Enfer Rochereau, au coin de la rue Daguerre. Donc elle est plus petite que l'atelier et la place en termes de volume est moins importante que celle consacrée à l'atelier, visiblement. Nous, c'est une bibliothèque bien remplie et dans un rayon qui lui fait face avec un lutrin et avec un espèce de petit désordre organisé. C'est-à-dire que, je vais vous dire pourquoi après. La librairie, on a un côté, évidemment, on a sciences humaines et littérature beaucoup. La jeunesse et le pratique sont au fond. Et on a ramené les sciences humaines, lorsqu'on a fait les travaux il y a une dizaine d'années, on a ramené les sciences humaines au premier plan parce qu'on a beaucoup de psy dans le quartier. Et je trouve important qu'ils soient accueillis et que les sciences humaines ne soient pas toujours au fond des choses là-bas. Et le rayon, à l'époque, poésie, était tout à fait au fond à gauche, quand un petit poteau, il y avait un petit meuble avec un grand bazar. Et maintenant, elle est près d'un autre pilier, dans un coin discret, près de la porte de sortie, ce qui permet à des gens de nous en voler quelques-uns, je pense, mais qui permet surtout aux lecteurs de feuilleter sans être dérangé, sans être bousculé. Parce que dans certains secteurs, certains rayons, on peut aller chercher un livre plus rapidement. Dans les livres d'actualité, bon, un peu partout, on peut feuilleter, mais en poésie, généralement, on prend le temps de fouiller. Et lorsque je vous parlais de petits chaos, un petit désordre organisé, c'est qu'à l'époque, quand c'était tout à fait au fond, on mettait les piles de nouveautés, même des piles unitaires, si on peut dire, on mettait les livres dans une espèce de vrac comme ça. Les gens fouillaient et trouvaient un livre en dessous de la pile. Ils avaient l'impression que c'était l'exemplaire unique au monde qui avait été publié juste pour eux. Donc cette rareté faisait le prix, il faisait le choix. Maintenant, on a changé un peu donc cette configuration-là, mais on a voulu aménager un petit espace un petit peu plus tranquille où il n'y a pas trop de passages pour qu'on puisse feuilleter, regarder. Pour nous par contre, donc la proportion de chiffre d'affaires est beaucoup moins bien. L'année dernière, on a fait environ hors Pléiade, parce que la poésie, voilà, elle est disséminée dans différents rayons, si on veut. Mais hors Pléiade, c'est environ 14 000 euros l'année dernière, c'est-à-dire sensiblement la même chose que l'année d'avant. C'est très stable. De toute façon, je crois que c'est Enzensberger qui avait dit un jour qu'il y a 1038 lecteurs de poésie en Russie, 1038 en Allemagne, 1038 au Luxembourg, 1038. Il y en a toujours 1038, il y en a toujours 1038, donc il ne faut pas s'inquiéter. Et je constate que le chiffre n'est peut-être pas tout à fait juste, moi je pense à 1022, mais bon, mais il n'est pas là pour en débattre avec nous. Mais il y a un chiffre assez stable et il y a un lecteur de poésie qui est en gros le même, qui est assez... assez stable et qui va chercher ce qu'il veut dans ce rayon. Mais nous, c'est beaucoup moins, donc ça fait environ 2%, je vous dis hors Pléiade, parce que là, on rentre dans d'autres catégories, 2% du chiffre d'affaires, ce qui n'est pas beaucoup, mais mieux que la moyenne nationale, je m'en sors, mais beaucoup, je suis un peu humilié par rapport à l'atelier, où là, vraiment, ils sont très, très forts. Mais bon, on essaie de maintenir quand même une qualité. Avec quelques livres un petit peu plus rares, on se dit toujours qu'il faut quand même trouver des petits éditeurs, des livres un petit peu chouettes, et souvent très bien fabriqués, c'est l'avantage de ces ouvrages. Par contre, on travaille très bien les poésies Gallimard, parce que nos meilleures ventes sont souvent, évidemment, pour nous, ce n'est pas le col d'Apollinaire, malgré tout. L'année dernière, en tout cas, c'était le Pied Éluard, il y a un Pied Éluard qui était sorti illustré, et chacune de mes meilleures ventes aussi, c'était encore en poésie Gallimard, la guirlande, non, la Lettera Amorosa de René Char. Avec les illustrations de Braque. Enfin, c'est un petit cadeau parfait qui remplace le poème qu'on ne saurait pas écrire à une amante.
Il est certain que ce qui nous intéresse évidemment aux États généraux de la poésie, c'est l'état du livre de la poésie vivante contemporaine d'aujourd'hui, même si on a le plus grand respect pour
nos Gallimard édite des contemporains, voilà. Aussi.
Oui,
non,
un petit peu. Oui. Mais ce qu'il faut savoir aussi, et une question sur laquelle on pourra revenir tout à l'heure avant de... quand on aura le temps, c'est la problématique de la durée de présence du livre de poésie chez le libraire. Parce que vous savez très bien aujourd'hui qu'un certain nombre de romans, au bout de 2 mois, ça dégage. Le livre de poésie a besoin d'un temps long, d'un temps différent. Mais ça pose des problèmes de stock aussi, des problèmes importants. Donc je pense qu'on pourra revenir sur ce problème-là, si ça ne vous ennuie pas. Peut-être qu'on peut demander à nos médiateurs de bibliothèque et de médiathèque de nous dire quelle est la place de la poésie dans leur maison.
Alors, moi, je suis bibliothécaire dans une médiathèque départementale, donc c'est une médiathèque un peu particulière, c'est-à-dire que ce n'est pas une médiathèque qui accueille du public en direct, mais qui travaille avec les bibliothécaires du département et qui accompagne les bibliothécaires du département à constituer leur fonds. Donc, j'ai 2 collègues là qui sont dans l'assistance, qui sont grands spécialistes aussi de la poésie. Alors, je suis un petit peu gênée de parler à leur place, mais elles apporteront leurs éléments si j'oublie des choses. En tout cas, la médiathèque départementale de Seine-et-Marne a fait un choix assez courageux par rapport, je pense, à d'autres lieux de lecture publique. C'est de faire que la création contemporaine, ça répond à votre question, soit notre axe principal et notre politique de lecture. Ça veut dire que ce n'est pas que la poésie, bien sûr, qu'on met en valeur, mais tout ce qui est création contemporaine, quelle que soit la discipline. Donc, c'est pour ça qu'on est spécialiste et du cinéma documentaire, etc. etc. Donc, les créateurs contemporains ont la poésie. Et sur la poésie, on a fait des choix aussi de politique d'acquisition et de politique d'action culturelle, parce que nous, on estime que on ne peut... c'est pas parce qu'on met un livre en rayon, même si on fait des choix très intéressants, que ces livres sortiront, et qu'il faut les accompagner d'actions culturelles. Et donc, on a fait des choix budgétaires que j'estime un peu courageux. Là, j'ai demandé les chiffres, parce que je ne suis pas bonne sur les chiffres, donc j'ai demandé à ma collègue qui m'a dit qu'on achetait presque 9% du budget total d'acquisition en livres de poésie. Je vous expliquerai après pourquoi et ce que ça représente. Et 10% de mon budget, parce que moi, je suis responsable du développement culturel, est consacré à des actions culturelles qui vise à mettre en valeur le livre de poésie. Et ça produit des résultats.
Oui, parce que ce n'est pas tout de les avoir dans les rayons, il faut effectivement
Exactement.
Les lire.
Voilà. Voilà. Et donc on a un taux d'emprunt qui est bien supérieur à la moyenne nationale, puisque le taux de rotation d'un livre de poésie en bibliothèque est de 2%, et nous on a 44% de notre fonds qui est emprunté.
Ça tient à votre action, pensez-vous ?
Oui.
Voilà. C'est-à-dire c'est quoi ?
Je la déclinerai
voilà.
Après, mais oui. Oui.
À vous.
Oui, bonjour. Attendez, je vais... Hop. Mais non, pas du tout. Bonjour, donc Pascal Leray. Donc actuellement, je suis au Conservatoire de Paris où donc, je suis un petit peu entre parenthèses de lecture publique. Donc la lecture publique, c'est cette bibliothèque qui s'adresse aux citoyens dans les villes et les campagnes avec une vocation de médiation. J'ai exercé pendant 6 ans ces dernières années à Cergy-Pontoise et 10 ans à Noisy-le-Grand auparavant. je vais être un peu le mauvais élève, hein, et je l'assumerai volontiers. En gros, je me disais, dans le budget d'acquisition d'une bibliothèque, d'un secteur adulte, un budget de 40 000, 50 000 euros, vous allez rarement, alors les exceptions existent, mais dépasser 1 000 euros d'acquisition annuelle sur la poésie contemporaine, qui plus est. Ça, c'est un premier point, et c'est vrai que c'est pas une tendance qui est à la hausse. Les budgets des bibliothèques n'étant pas à la hausse, la poésie est même quelque peu fragilisée. Alors, elle l'est pas complètement, mais malgré tout, effectivement, c'est un point d'alerte à avoir.
Est-ce que je peux vous interrompre?
Oui.
Vous dites comme un état de fait, mais c'est pas inscrit dans le marbre, c'est-à-dire.
De quoi?
Vous dites, on achète jamais plus qu'à peu près 1 000 euros.
Ah non, je ne dis pas que ce soit inéluctable, je voilà, parle d'une réalité.
Quelle est la file? Pourquoi? C'est-à-dire parce qu'on pense, ah, c'est des livres de poésie, ça va pas marcher, ou parce qu'on a l'habitude de cela, ou parce qu'on préfère le roman, ou qu'on préfère les sciences humaines. Vous voyez, c'est un choix, finalement.
Alors, c'est un choix. Je pense que les bibliothécaires sont globalement beaucoup plus, et c'est un reproche que je ferai à ma profession, tournés vers le roman que vers les autres formes de littérature. Pas seulement la poésie, hein, mais c'est vrai qu'on a une prédilection, une tradition de roman qui a été un petit peu dévoyée, parce que si on remonte au 19e siècle, le roman c'était un outil de médiation et un outil de développement culturel. C'était quelque chose qu'il fallait défendre. Dans les familles pauvres, souvent, le roman était interdit. Hein. Donc c'était un combat courageux. Aujourd'hui, le roman dans les bibliothèques, quand vous rentrez dans une bibliothèque publique, municipale, vous allez tomber sur un immense rayon de romans. Et puis on a quelque chose qui commence à venir, alors qui rejoint la notion de la place de la poésie, qui laisse le rayon poésie. Ça c'est quelque chose... Jusqu'ici, on avait très souvent la poésie dans les rayonnages, dans les classes 800, avec... une sous-classification absolument incompréhensible pour tout le monde. De plus en plus, les bibliothécaires essayent effectivement de faire émerger cette notion de fond poésie avec une lettre P pour poésie. Mais ça, c'est quelque chose de relativement récent. Et effectivement, donc, il y a une sorte de déséquilibre entre l'attention très forte portée par le roman, pour le roman, et une difficulté à appréhender les autres genres, et en particulier la poésie, oui.
D'autant plus que ça pose le problème du genre, si je puis dire, en matière littéraire. Le roman tel qu'on le connaît depuis, le 19e siècle, parce que bien qu'il soit beaucoup plus ancien, a une forme vendable, facile, il y a une histoire, etc. Et on peut passer un bon moment. Mais il se trouve qu'en poésie contemporaine, aujourd'hui, on est dans un genre qui devient de plus en plus hybride. C'est-à-dire qu'il y a un grand nombre de textes qui sont au bord de la narration, qui peuvent faire passer un bon moment au sens... romanesque du terme, et qui pose des questions extrêmement profondes. Et c'est pour ça que la problématique d'aller se... comme si la poésie était une sorte d'enfer du roman, c'est plus le cas. C'est-à-dire que dans les bibliothèques, les responsables se rendaient compte que la poésie touche de plus en plus largement le monde de la littérature, ils ouvriraient peut-être le département de poésie un peu plus comme si c'était... des lieux proches du roman parfois.
Alors c'est possible, en tout cas ce qui me semble, la Valérie Ruxell me contredira peut-être, hein, ça serait intéressant de savoir, mais je pense que globalement les bibliothécaires ne savent pas tellement par quel bout prendre la poésie, et que souvent il y a des déceptions, il y a des non-rencontres quand ils s'adressent à des poètes qui leur disent « moi je vais vous dire ce que je fais par exemple, j'ai vu ça bon. ». Très bien, et le bibliothécaire s'en retourne bras ballants, ou alors on lui dit « lisez les revues de poésie ». Ah bon, ok. Donc il y a une espèce de difficulté quand même à appréhender. Il y a très peu de documents sur la poésie en bibliothèque, hein, on en parlait tout à l'heure, je vous pique votre référence, joyeusement, mais ça c'est un truc de bibliothécaire de piquer les références. Et oui, la difficulté, je crois, ça, c'est, mais qui est peut-être pas une si grande difficulté à lever, c'est de provoquer la rencontre, c'est de permettre aux bibliothécaires, qui sont pas de mauvaise volonté globalement, au contraire, hein, qu'il faut quand même pas penser que la poésie est absente des bibliothèques, la poésie contemporaine est présente, malgré cette difficulté de compréhension. Oui. Les professionnels font leur boulot, quoi. Oui.
Juste pour compléter, j'ai travaillé pour venir à la rencontre. J'ai fait des petites recherches, ce que je disais. Aucun mémoire de conservateur n'a été fait sur la situation du livre de poésie en bibliothèque, donc ça n'intéresse pas les conservateurs, apparemment. Aucun dossier du BBF, le bulletin des bibliothèques de France, n'a été consacré à la poésie en bibliothèque. Très peu d'articles dans les revues professionnelles. Le seul livre prouvé, c'est celui-là, donc La poésie contemporaine en bibliothèque, chez l'Harmattan, de Étienne Ruault. Voilà. Donc, quand même, c'est un peu symbolique.
Ce qui me fait rebondir directement sur la question, ce qui me fait rebondir directement sur une autre question, c'est que finalement, la poésie relève presque d'un acte militant, d'un engagement politique de ceux qui peuvent la faire vivre dans les librairies, dans les bibliothèques. Est-ce que c'est comme ça que vous le vivez ? Comme c'est le cas pour les poètes, d'ailleurs.
Moi, je ne crois pas que ce soit plus militant que de maintenir une librairie à flot, déjà aujourd'hui. Et la poésie en fait partie, pour moi. Surtout qu'il y a beaucoup de textes aujourd'hui, vous le soulignez, monsieur, voilà, qui sont à la lisière des deux, ce qui fait la différence entre les deux, etc. Bon, je ne vais pas rentrer dans ce débat, mais oui, c'est un peu militant, mais c'est ce qu'on fait tous les jours, c'est de militer, c'est de faire en sorte qu'il y ait des livres et un espace où les gens peuvent trouver ce qu'ils ne cherchent pas. Voilà, éventuellement ce qu'ils cherchent, mais on n'a jamais tout ce qu'il faut, c'est Babel, hein, donc c'est infini, et là-dessus on va avoir du mal à lutter contre les grands méchants qui délocalisent. Et nous, le militantisme, en fait, c'est de créer, c'est vous qui suggérez cette idée de rencontre, en fait, c'est d'arriver à faire en sorte que quelqu'un qui ne pensait pas acheter un livre de poésie ou un livre de quoi que ce soit d'autre, d'ailleurs, le trouve, et alors que ça m'arrive souvent d'entendre avec des clients qui disent « j'ai trouvé ça, c'est incroyable, j'étais venu pour acheter telle bricole et je repars avec ça ». Donc c'est de créer un espace dans lequel ils peuvent éventuellement trouver autre chose. Et c'est une histoire de désir, en fait. Et le désir, il ne sait pas ce qu'il va chercher, il ne sait pas ce qu'il veut. C'est une autre donnée sur laquelle on doit travailler, qui n'est pas uniquement celle de l'offre et la demande, et Dieu sait qu'on a l'œil rivé sur ses compteurs, parce qu'il faut quand même payer les factures et les salaires. Et donc, et la marge est très, très mince. Mais voilà, bon, c'est un militantisme comme le reste, mais de toute façon, sinon, qu'est-ce que je ferais d'autre ? Voilà, donc, en fait, on me posait la question ce matin chez les méchants de Gallimard. Pourquoi j'ai racheté la librairie ? C'est parce que je suis, là-dessus, je suis opposé aux ludistes, c'est-à-dire les ludites qui avaient leur raison pour le faire, mais détruisaient leurs instruments de travail, donc d'asservissement. Moi, j'ai acheté mon lieu de travail pour être sûr d'être encore plus asservi par moi-même. Moi, je suis un grand masochiste. Voilà, mais je crois que tu vas dire des choses plus profondes.
Quand j'ai eu cette question, j'étais un peu embarrassée. Ça supposerait de définir déjà le militantisme. Après, ça nous emmène loin. Après, ça suppose qu'on définisse aussi la poésie. Ça va nous emmener très, très loin tard. Et j'ai eu souvenir d'une campagne du syndicat de la librairie française qui présentait les libraires, quand il y a eu le tintouin d'Amazon, tout ça. Comme vous savez, c'était aller voir votre libraire en voie de disparition. Et moi, le sentiment qu'on était comme des pandas qui allions bientôt disparaître, c'est un côté un peu comme ça de victimisation qui nous renvoie. Et vraiment, on était un peu embarrassés dans notre librairie en voyant les gens arriver en disant peut-être ils viennent observer le panda et le nourrir, quoi, pour être sûr qu'on puisse continuer à jouer avec la pluche.
Surtout que c'était surtout affiché en librairie, donc les gens étaient déjà rentrés.
Il y avait aussi des campagnes dans Télérama, des choses comme ça.
Librairie Jardin des Plantes,
c'est ça. Un peu. Et donc je me suis dit, alors voilà, est-ce qu'on réserverait le même sort à la poésie, et ce serait terrible. Et de la même façon que nous ne sommes pas morts, de la même façon, il me semble que la poésie est particulièrement vivante. Vous y êtes tous, tout le monde, enfin. Ça, je crois qu'on est à peu près tous convaincus. Après, je ne crois pas non plus qu'on puisse ériger la poésie comme une cause, comme, je ne sais pas, alors, est-ce que la poésie est discriminée ? Et en effet, il faudrait mettre en place un système de soutien très spécifique et très politique, mais ça relève d'autres décisions. Mais est-ce que la poésie serait comme, je ne sais pas, la cause des migrants ? Est-ce que la poésie, ce serait comme la cause des femmes ? Est-ce que ça aurait un sens comme ça de poser la poésie à cet endroit-là Je ne sais pas si ça lui serait bénéfique, en sachant que ça supposerait en plus de considérer la poésie comme quelque chose de très homogène, avec des frontières qu'on aurait délimitées et qu'on saurait, voilà, c'est cette cause-là, elle commence là, elle est là. Et moi, j'ai du mal à considérer la poésie, voilà, comme une cause pour laquelle il faudrait militer. Il me semble que les gens la vivent intimement et dans leur quotidien de façon beaucoup plus libre que ça. Ensuite, évidemment, on pourrait me rétorquer que, et pourtant, il faut bien se battre. Mais tout ce vocabulaire, d'ailleurs, un peu guerrier et tout ça, ça ne me parle pas, donc j'aurais du mal à dire ça. C'est un métier, c'est un quotidien, c'est je ne sais pas.
Non, je pense qu'en tout cas, pour revenir à ce que vous disiez sur la poésie, moi je suis d'accord, mais on peut en tout cas dire que la poésie qui se heurte à la limite de la nouveauté, elle est sans domicile fixe. C'est-à-dire, à tout le moins, elle est dans une circulation économique compliquée, pas facile. Donc, les médiateurs que vous êtes, dans les librairies et dans les bibliothèques, vous êtes des gens qui apportaient soutien aux textes, c'est-à-dire qui pouvaient les présenter. Et le rôle du médiateur, de celui qui a lu un livre qui lui plaît, bien sûr, on ne va pas faire semblant d'aimer un livre, est extrêmement important. Moi, j'ai vu des libraires qui sont capables de vendre en gros ce qu'ils veulent. C'est-à-dire, s'ils aiment un livre, ils le vendent. Et s'ils savent en parler, ouais, ils arrivent à le vendre.
Je sais pas, c'est...
Je provoque un peu.
Oui, c'est ça. Après, ce mythe du libraire qui pourrait vendre par cette espèce de passion qui l'habite, n'importe quoi, au tout premier lecteur entrant dans la librairie, moi, je...
Non, en pas, tout cas, pas c'est passion, pas mais connaissance de son public et connaissance du livre. C'est-à-dire, vous disiez, monsieur Olivier, pardon, que vous aviez beaucoup de psy. Alors, je ne sais pas si vous vendez aux psy ou aux patients, mais ce n'est pas la même façon
les
de
deux,
vendre.
Les deux. Voilà. Les deux, d'ailleurs, il y a des psys qui envoient leurs patients lorsqu'ils ont du retard, ils envoient leurs patients à la librairie. Voilà, je me suis fait beaucoup de copains. Et il y en a d'autres, j'ai appris après, parce qu'il y a des... notamment, je me rappelle, il y a une jeune femme qui venait régulièrement le mercredi soir, et puis on discute, et elle me disait qu'elle avait un cours de karaté, mais elle n'avait jamais de sac. Et elle repassait après, et en fait, quelques années après, elle est repassée, elle m'a dit qu'elle venait acheter des livres pour compenser, parce qu'elle allait faire sa psy, et sa récompense, c'était ça, c'est d'acheter un livre et de venir nous voir. Mais voilà.
Non mais je veux bien, je vous ai un peu interrompu. Moi, je trouve que c'est intéressant que vous disiez non, j'ai pas du tout envie, si j'ai bien compris, d'être passionné par le livre. Je vends le livre.
C'est pas ça que je disais. Non.
Non, mais il y a le mythe du libraire qui vend que ce qu'il aime. Et tout ça, c'est pas vrai. Enfin, moi, je ne les connais pas, tant mieux pour eux. Mais
moi, je connais beaucoup.
Je pense que. Mais on vend aussi ce qu'on aime, Dieu sait. Et parfois, ça marche de vendre absolument ce qu'on aime. Mais il est bon, parce que vous avez évoqué ça, il est bon de savoir à qui on a affaire, mais individuellement. D'abord, dans la masse, j'ai beaucoup de psy, d'accord. Mais de connaître Mme Villers, pardon. On sait qu'elle avait les messages. Je lui ai déjà dit, prenez pas celui-là, prenez l'autre. Ah bon? Et elle revient après, parce que moi j'ai envie qu'il revienne, mon client. Donc si je lui dis j'ai beaucoup aimé le livre de Maulepoix et je force à le lire et qu'il ou elle ne l'aime pas, il ne reviendra plus. Il va dire lui, pour vendre son bouquin, il est prêt à n'importe quoi. Et donc ça ne marche pas, il faut les accompagner en douceur là-dessus. Et il y a des livres que j'aime beaucoup, que je n'ai pas réussi à bien vendre. Et puis j'ai aussi vendu, parce qu'il faut payer les factures, sans faire beaucoup d'efforts, des livres que je n'aime pas du tout. Mais ça, c'est autre chose. Il y a un équilibre, là.
Voire même, moi, c'est un client qui est devenu une amie, elle achète ce que je n'aime pas. C'est-à-dire qu'elle sait que si je ne l'aime pas, c'est bon, elle va l'aimer.
C'est voilà. Ça, les bons vendeurs. Voilà.
Attends, après tout.
C'est humiliant, mais ça marche.
Pour revenir sur la poésie, c'est sûr que si on en revient à... Quel effort il faut faire, en fait. C'est sûr que quand un client arrive et dit « Oh, j'ai envie de lire un truc léger », ce qui est assez fréquent, ne serait-ce que de penser à dire « Ah, mais tiens, un livre de poésie », c'est-à-dire de penser dans le conseil qui est le plus ouvert possible, même si léger nous resserre considérablement en littérature, de toute façon. Mais de penser à se dire « Ah, je vais vous conseiller un livre en poésie », c'est vrai que peut-être que ça, pour ma part en tout cas, mais je ne crois pas être la seule... ça ne vient pas forcément tout de suite. Et c'est vrai qu'assez spontanément, on va vers un roman, en fait. Je crois. Hein.
Oui.
Donc, peut-être que là, il y aurait... Il y a ce travail-là aussi de sans cesse avoir en tête, avoir tout plein de lectures qu'on a de poésie et de se dire, à ce moment-là, même si on a l'impression qu'il veut aller vers le roman ou un essai, alors on peut l'amener à la poésie et avoir toujours ce rayon-là en présence.
Oui, c'est vrai. Nous, il faut faire notre mea culpa là-dessus. Et en ce moment, et en même temps, parfois, lorsque vous essayez de si vous présentez la poésie à quelqu'un, il va vous dire souvent, non, mais je veux lire un roman. Et vous leur dites, non, mais même si c'est des nouvelles qui sont déguisées sous forme de roman ou un récit sur lequel c'est marqué roman et qui n'est pas plus un roman qu'autre chose, ils veulent un roman. Et ils veulent un truc qui ne leur prenne pas la tête, mais une histoire, un livre qu'on ne lâche pas. Et la poésie, heureusement d'ailleurs, ça peut se lâcher parce qu'après, ça vit autrement en vous, quoi. Mais ce n'est pas du récit. Mais on se heurte à ce refus-là. Donc on ne va pas les violenter. Mais il est vrai que parfois, on oublie, nous, on n'y pense pas. On n'y pense pas toujours de dire, bah, tiens, on a le cas, j'imagine que tu as le même, non? On a le cas classique de la personne, je veux faire un cadeau à quelqu'un qui est à l'hôpital, qui est fatigué, donc pas une grande concentration. C'est fatigant, ça peut être épuisant même de lire. Il faut un livre léger qui tienne bien. Et on ne pense pas tout le temps à se dire, moi j'ai jamais pensé à dire, bah, tenez, offrez un livre de poésie. C'est vrai que
après, ça pourrait on a eu des expériences de, j'ai un livre, je sais qu'il conviendra. Par rapport à tout ce que la personne a dit, je sais, mais c'est de la poésie. Et on est obligé de trouver des petits détours de langage à passer comme ça pour dire, en gros, c'est de la poésie, mais vous inquiétez pas, ce sera quand même ça. Et c'est, voilà, après, ça peut être un jeu, mais il faut imaginer la tête de la personne quand on dit c'est de la poésie, et là, d'un seul coup, la personne, voilà, ça se referme un peu ou se met à froncer les yeux en disant, oulala, ça va être compliqué. C'est assez étonnant, c'est assez général, c'est pas systématique. Mais voilà, je crois qu'on vous parle de notre quotidien, alors forcément on fait des généralités, mais...
Et quelle est la situation dans les bibliothèques, médiathèques vis-à-vis de la poésie de ce point de vue-là?
Alors, pour revenir rapidement sur le tome de Militant, mais vraiment très rapidement, parce que vous avez à peu près tout dit ce que je pensais quand j'y réfléchissais. Avec une nuance en bibliothèque, c'est qu'on n'est pas à notre compte. C'est pour ça que je tenais à ce que les libraires parlent en premier, parce qu'ils prennent un risque quand même qui est important. Ça veut pas dire que les bibliothécaires n'en prennent pas, parce qu'effectivement, nous, on est soumis à une tutelle hiérarchique, à une collectivité territoriale, à des élus qui ont des enjeux de résultats qui pèsent sur le directeur de la bibliothèque, donc sur l'équipe de la bibliothèque, ce qui est une contrainte aussi, hein, quand on dit poésie, effectivement. Alors... militantisme, non, parce qu'effectivement, si je dis je veux faire le printemps des poètes et que mon élu me dit non, vous ne ferez pas le printemps des poètes, je ne ferai pas le printemps des poètes, j'ai un devoir d'exécution. C'est à la base d'un fonctionnaire. Par contre, effectivement, je vais pouvoir faire de l'entrisme. On a fait, par exemple, alors c'est pas de la poésie contemporaine, mais on a fait à Cergy Pontoise une belle journée autour de la cosmétique, autour du secteur industriel de la cosmétique. Et on a glissé là-dedans une petite table ronde sur Baudelaire. Bon, mais en gros, pour dire qu'effectivement, c'est moins le côté militant qui alors vraiment, ce que vous avez dit, tout ce qu'il fallait, donc je leur dis rien. Mais parce qu'effectivement, l'idée de clôture, quand même, elle est un peu problématique, quoi. Je veux dire, c'est quoi qui serait pourquoi on militerait? Qu'est-ce qu'on appelle poésie et qu'est-ce qu'on appelle poésie contemporaine? Ça, c'est d'autres sujets, on les abordera peut-être. Mais par contre, il y a effectivement une dimension d'entrisme, hein, politique, quoi. C'est-à-dire effectivement de faire entrer quelque chose, donc, ce qui n'était pas forcément prévu. Et puis il y a surtout cette sensibilité particulière à avoir, vous avez décrit justement, effectivement, c'est d'essayer, et pour ça il faut des gens qui connaissent bien la poésie, il faut des gens qui la pratiquent, qui la lisent, d'essayer de trouver les bonnes accroches, que ce soit en termes de public, que ce soit en termes d'événements, et que ce soit aussi en termes d'opportunités, c'est-à-dire effectivement, est-ce que la rencontre que je vais programmer a des chances de fonctionner ou pas du tout? C'est une notion qui n'est pas très très bien acceptée en poésie, souvent, de dire, ben voilà, il y a une obligation de résultat, mais elle pèse sur nous en tant que bibliothécaire, on ne peut pas ne pas l'entendre non plus.
Oui, je reviendrai, même par rapport aux missions des bibliothèques, je ne pense pas que ce soit du militantisme dans la mesure où on a vocation, enfin, d'après la charte de l'UNESCO, à ouvrir le champ culturel au plus grand nombre et justement peut-être à défendre des œuvres de qualité qui sont peu médiatisées. Peut-être par rapport à ce que je vous entendais dire par rapport au militantisme, c'est un terme aussi que je n'emploierai pas. Néanmoins, je pense que c'est un genre qui est peu relayé dans la presse. Donc, voilà. Et c'est là où on a quand même un rôle, même par rapport au grand public, parce qu'en effet, il va entendre parler du roman, il va entendre parler, voilà, donc spontanément, ils viendront nous voir en nous disant, voilà, je veux tel ou tel. Voilà, en poésie, on a un vrai, alors c'est pas un rôle de militant, mais c'est, j'allais dire, un rôle, un esprit de curiosité, de connaissance, et peut-être là, on reviendra, parce que je sais qu'il y a une question sur tout ça, mais je pense que la grande difficulté, en fait, c'est de connaître. D'avoir rencontré déjà les textes avant de pouvoir les transmettre. Oui, et on a un gros travail en tant que bibliothécaire de connaissances et de formation. Voilà.
Mais est-ce que le terme militant, qui effectivement n'est peut-être pas parfaitement adéquat, on pourrait utiliser le mot qui était un peu galvaudé de résistance, c'est-à-dire si on est devant un flux en matière littéraire, en matière de vente de romans, il y a un grand nombre de gens, et vous le dites vous-même, qui disent... Ah, je suis fatigué, j'ai envie de passer un bon moment, j'ai envie de trouver un roman qui va me... Je ne vais pas le lâcher, je vais oublier, en gros, le monde courant pour me baigner dans un autre monde qui va ou me faire rêver ou me faire passer un bon moment. Et évidemment, le principe tel que je le perçois, la poésie n'est pas en général quelque chose qui est là pour vous faire passer un bon moment. Ça peut arriver, mais ça peut vous apporter des jouissances, du plaisir... Mais il me semble que là où se place la poésie, c'est un peu aux limites toujours. Donc c'est une sorte de résistance à l'oubli de soi-même. Voilà. Et donc, promouvoir des textes qui ne sont pas faciles, c'est une forme de résistance. Voilà.
Alors, si je garde le micro juste deux minutes. Voilà. Je pense qu'on a essayé, nous, à la médiathèque départementale, de prendre les choses un peu à l'envers. C'est-à-dire que... par exemple, on travaille beaucoup avec des collégiens. On a beaucoup d'actions en direction des collégiens. Et des fois, on n'a pas besoin de leur dire que c'est de la poésie. En fait, on leur présente des textes. Voilà. On leur présente des auteurs. On choisit chaque année... alors, nous, entre nous, on se dit on choisit deux poètes et on choisit deux auteurs de théâtre. Mais peu importe. Par contre, on lit beaucoup en amont et on choisit vraiment des auteurs et des univers d'auteurs qu'on a envie de partager sur la durée. Alors peut-être ça revient aussi ce que... Voilà. Et après, finalement, ces jeunes adolescents rentrent dans ces univers d'auteurs et se posent réellement pas la question de savoir si c'est de la poésie ou si c'est pas de la poésie. Par contre, souvent... les enseignants ou les bibliothécaires nous disent « Mais ça, c'est pas de la poésie. Vous nous avez annoncé qu'on allait travailler autour de la poésie et vous nous faites lire des choses qui sont pas de la poésie. » Voilà. Alors là, on a de nouveau un autre travail à faire, c'est-à-dire auprès des professionnels de les convaincre et allez, ils font une bonne action militante, ils transmettent de la poésie sans le savoir. Voilà.
Ouais. Non, moi, je suis tout à fait d'accord avec vous. Il y a un retournement opéré. En plus, il faut dédramatiser le truc. Voilà. Ça, c'est très important.
Alors, on peut peut-être... Est-ce que l'idée du livre pas facile ne va pas aider à le dédramatiser ?
C'est pas facile de se remettre en question et à la fois c'est enrichissant. Non, je veux dire, c'est pas facile de... au niveau du contenu, pas au niveau de la forme. Je parle pas de la forme, je parle du livre pas facile. C'est le livre qui ne vous berce pas et ne vous endort pas. Ça ne veut pas dire qu'il ne vous fait pas jouir.
En fait, je pensais à un terme, c'était Olivia Rosenthal qui était intervenue dans une émission, je crois, à Voix Nue. Et elle parlait plus généralement de littérature confortable ou de littérature inconfortable. Voilà. Ce qui me semble, moi je trouve qu'elle a trouvé un mot très juste, ce terme de littérature inconfortable, qui évite pas mal ni le facile, le pas facile, enfin qui évite un peu
oui,
tout le jugement.
Va, ça me va.
Ça vous va? Moi, là, on se met d'accord sur l'inconfortable.
On est d'accord.
Mais je crois qu'en poésie, il y a de la poésie confortable et de l'autre inconfortable, en réalité.
Oui, mais il y a aussi de la poésie confortable et magnifique. Hein, c'est pas, mais n'empêche que le problème se pose. Et là, je trouve que Valérie a bien posé la chose. Il faut retourner le problème. On n'est pas là pour être traumatisé par les catégories. Hein. Il y a des romans infiniment poétiques. Je ne citerai que par exemple Céline, pour ne pas le nommer, il y a beaucoup d'autres romans qui sont pour des grandes parts de la poésie. Hein. Et bien, c'est pas pour ça qu'il faut avoir peur. Enfin, voilà. Il y a d'autres questions qui se posent. Je ne sais pas si on peut y venir. On pourrait savoir si, en matière de poésie contemporaine, qu'est-ce qui guide vos choix, puisque vous faites des choix, qu'est-ce que vous allez prendre dans vos rayons en librairie? Qu'est-ce que vous allez acheter pour mettre dans vos bibliothèques? Qu'est-ce qui guide vos choix? Donc, bah, Natacha ou Olivier.
Alors, comment choisir un texte qu'on n'a pas lu? Parce qu'on achète les livres à l'avance. Notre métier, le plus clair de notre temps, on le passe avec des représentants, on achète des livres. Et de temps en temps, on essaye d'en vendre. Mais le plus clair de ma journée, moi, c'est en dehors de l'administratif qui est très très lourd dans ce pays, c'est acheter des livres. Or, on doit faire confiance à un représentant. Si on a confiance en lui, on peut le dire, ok, ça on peut tenter telle ou telle chose, ça a l'air d'aller. Mais en poésie, en plus, le représentant qui vient vous présenter son programme, il va vous parler de tel ou tel roman, généralement il vous raconte l'histoire, qui a ou non de l'intérêt. Mais pour parler de la poésie, bah on se fie à quoi? Généralement, à telle collection, généralement il y a des trucs bien, ou alors tel auteur, j'ai entendu parler de lui tout à l'heure, j'ai parlé de Maulepoix, il est connu, bon voilà, il vient d'avoir un prix, donc voilà, c'est plus facile de dire, tiens, on peut prendre Maulepoix. Ouais. C'est pas un grand risque, ça veut pas dire qu'on va le vendre, mais on choisit comme ça. S'il y a un nouveau livre, Jean Schlurt, ce que personne connaît, on vous le présente chez un petit éditeur que vous connaissez pas non plus, c'est très difficile de lui donner place si de toute façon vous n'allez pas le défendre et vous allez le mettre en étagère. C'est sûr que c'est assez difficile. Donc on fait un truc qui est complètement stupide, mais je ne vois pas très bien comment faire d'autre. C'est-à-dire qu'on choisit un petit peu au hasard et après on réagit parce qu'on est des réactionnaires. Donc on réagit après coup quand on entend parler telle ou telle chose ou nos clients qui viennent nous dire. Parce que nous, on est prescripteurs, mais mes clients le sont avec moi aussi. Ils m'ont fait lire des choses, ils m'ont fait découvrir des choses en me disant « mais il faut que tu lises ça, tu vas voir, c'est formidable ». Et du coup, en discutant, il y a des petits éditeurs comme Lanert, par exemple, qui fait des choses incroyables, qui ressort des textes de contemporains ou de morts depuis fraîche date, et qui isolent même des fragments de poésie à l'intérieur de romans, je pense à Joyce, par exemple. Voilà, ils font ça. Alors moi, quand je vois qu'il y a un livre à Lanert, je prends systématiquement, qui que ce soit. Je ne connais pas, si on connaît Olson ou pas, voilà, que je connaisse ou pas, je prends. Alors après, le choix est complètement arbitraire. C'est le choix peut-être le plus difficile parce qu'on peut parler d'un essai, on peut parler d'un essai philosophique, politique ou quoi. On peut parler d'un roman, on peut parler de plein de choses. Et la poésie, c'est très difficile à parler. Ça veut dire que c'est beau, que c'est bien écrit. Enfin, on espère quand même, quoi. Donc vraiment, c'est très, très compliqué. Je ne sais pas comment toi, tu fais, mais...
Ça se rapproche évidemment de ton expérience. Moi, je pense qu'il y a... C'est comme un système de toile, qu'il y a beaucoup de choses qui se recoupent. Il y a bien sûr l'entourage. J'ai souvenir d'un ami qui m'avait parlé de la poésie objectiviste. Et lui, m'en parlant, j'ai été intriguée. Puis j'étais allée chercher plusieurs choses. Donc ça, c'est tout ce qui fait partie de l'entourage, des gens que vous pouvez rencontrer, qui vous en parlent, qui font un festival, des choses comme ça, de peu en peu, de tout doucement, vous rencontrez des gens qui vous parlent de poésie ou de poètes. Et il y a aussi cet aspect professionnel, et en effet, je vais vous donner un exemple, si ça peut être aussi un peu parlant. Les éditions Macula, pour ceux qui connaissent, qui moi m'ont toujours intriguée du travail qu'ils font, ont renouvelé pas mal leur catalogue et ont lancé une nouvelle collection qui est menée par Jean-Christophe Bailly. Moi, travaillant beaucoup sur les sciences humaines, appréciant considérablement le travail de Jean-Christophe Bailly, voilà, ça fait un petit indice. C'est chez Macula, c'est Jean-Christophe Bailly qui commence une nouvelle collection qui va recouper évidemment des préoccupations que lui a qui ont fait que moi j'apprécie ses ouvrages. Donc là, voilà, vous avez un peu, vous êtes attentif. Et puis, il se trouve que c'est un ouvrage de Muriel Pic qui, elle, a travaillé sur Zebald et sur Benjamin. Alors, hop, tout ça, c'est votre petite toile de vos éventuelles lectures, de vos espaces de curiosité. Des vôtres, mais là, c'est plus facile d'en parler quand il s'agit de ceux que je partage, mais que ça peut être ceux d'un client qui, je sais, lui, s'intéresse à ça. Ça vaut quand je pense aussi à un client. C'est plus immédiat et plus fort quand c'est ma propre lecture. Et ensuite, il se trouve que voilà, elle travaille sur l'archive et qu'elle elle fait tout un travail de tricotage entre le texte et l'image, des images d'archives qu'elle retrouve et qui sont sur l'utopie. Alors voilà, là, ça commence à faire beaucoup de choses. Et là, vous vous sentez porté par un élan incroyable et vous dites ça, je veux absolument le lire. Et de fait, c'est magnifique. Ça s'appelle Élégie documentaire. Voilà, ça c'est un exemple de comment, mais ça tient aussi évidemment à comment on m'en a parlé, que le représentant, lui, a repéré que Jean-Christophe Bailly, je le lis, et qui va du coup m'en parler autrement, et qui va me donner tous ces petits indices-là que je vais pouvoir recouper. Mais effectivement, c'est beaucoup par ce système-là de recouper, on en entend parler, il y a des liens, des lectures qui se croisent. Mais je pense que c'est valable finalement pour tout lecteur.
On aurait dû inviter un représentant.
Ça aurait été une bonne idée.
Mais finalement...
Vous, justement, vous parliez de représentants. Mais je ne sais pas si c'est les mêmes. Représentants de... Dans l'évolution des bibliothèques des 20 dernières années, qui est l'évolution des collectivités territoriales, donc je parle des bibliothèques publiques, on a un phénomène qui est très sain, qui s'appelle les marchés publics, n'est-ce pas ? Qui permettent de garantir la bonne gestion du denier public en matière d'acquisition, notamment de documents, mais qui n'est pas forcément évidente à mettre en place et qui a eu des incidences assez malheureuses pour les librairies en particulier, les petites librairies. Dans les années 2000, ça a été assez catastrophique. Dans certaines grandes villes, on a des bibliothèques, des librairies qui ont coulé parce qu'elles ne pouvaient pas avoir les marchés de grosses bibliothèques. Je pense à la ville de Bordeaux en particulier, mais c'est pas un cas isolé. Il y a une deuxième incidence qui est peut-être moins sensible et qui a aussi des effets heureux parce qu'on avait des représentants qui venaient en bibliothèque régulièrement, un peu, qui avaient pignon sur rue un petit peu, alors ça avait un côté un peu agaçant, mais en même temps, c'était aussi des gens qui étaient des vrais passeurs et qui étaient des vraies aides pour les bibliothécaires en termes d'acquisition, qui étaient en lien direct avec les petits éditeurs. Donc aujourd'hui, effectivement, on a pu vraiment, enfin là, je me retourne vers Valérie à nouveau, mais on a plus vraiment ce lien avec des intermédiaires qui... et on n'a plus vraiment le lien non plus avec les libraires. On arrive difficilement à travailler avec les libraires autrement que sur le mode contractuel du marché public subséquent de préférence. On évite juste la mise en concurrence pour chaque devis. Mais de peu. Donc, ça, c'est pas très poétique, mais malgré tout, ça pourrait faire un poème.
Une liste.
Un peu plus qu'une liste. Bref, il nous reste la presse professionnelle, Livre Hebdo, qui n'est pas très parlante, la sensibilité propre des bibliothécaires, effectivement, le travail d'investigation propre aux bibliothécaires. Heureusement, on a des bibliothécaires qui ont une sensibilité littéraire très forte. Hein. Je tiens à leur rendre hommage quand même. Et justement, dans ce brouillard global, on arrive quand même encore à avoir des gens qui savent quoi acheter, qui achètent effectivement des choses assez diverses. Moi, quand je passe dans une bibliothèque, je regarde un petit peu. Et je vois des collections formidablement équilibrées. Alors, peut-être pas assez fraîches, pas assez achalandées, mais malgré tout, effectivement, on va avoir du Mollepoix, on va avoir du Hospitalier, on va avoir des choses très diverses. Finalement, les bibliothécaires sont les meilleurs formateurs en poésie contemporaine que je puisse connaître. Mais ce qui nous fait défaut aussi, c'est sans doute une dimension de formation professionnelle. On a évoqué ça très rapidement. Et puis le rôle des tiers, c'est-à-dire des lecteurs eux-mêmes, comme pour les libraires, c'est important. Le rôle des collègues est effectivement important. Donc c'est tout ça qui construit une collection. Vous avez un acquéreur principal qui va avoir un rôle de vigie, et puis effectivement des petites rivières que sont les lecteurs, les demandes de lecteurs, les suggestions des collègues.
Votre propos ne me remonte pas énormément le moral.
Pourquoi ?
Voilà, Valérie.
Moi, je vais dire que... Un bon bibliothécaire, c'est une éponge. Souvent, quand je donne des formations à des jeunes bibliothécaires, je leur dis votre métier ne s'arrête pas quand vous quittez votre bibliothèque, c'est quand vous écoutez la radio, quand vous vivez, vous devez absorber tout ce qui se passe autour de vous. Ah ben voilà, parfait. Et on a une expérience là tout à fait parlante, c'est qu'en fait, on vient de recruter... il y a 2 ans, Julia Camin, qui est là dans la salle, qui s'occupe maintenant du rayon poésie chez nous. Et quand Julia est arrivée, bon, c'était une lectrice, évidemment, mais elle venait d'Italie, elle n'avait aucune connaissance des éditions en France. Voilà. Et moi, j'ai dit, mais elle sera une excellente bibliothécaire. Voilà. Donc arrêtons de dire, il faut se former. Ça fait très plaisir aux bibliothécaires, il faut se former, comme ça on est rassurés. Voilà. Eh bien, il faut surtout écouter les autres. Quand on fait, on apprend. Quand nous, on a besoin de travailler avec les collégiens et d'aller... moi, j'y connaissais... Je vais vous dire, d'ailleurs, Nathalie est là, elle pourra en témoigner. Quand je suis arrivée et que j'ai travaillé avec elle, j'avais jamais lu de poésie. Voilà. Je n'ai pas lu, ça ne m'intéressait pas. Je pensais que c'était quelque chose qui n'était pas fait pour moi. Voilà. et on a travaillé ensemble et il fallait proposer un cycle poésie à des collégiens. Et ben on s'y est mis, on a découvert, on est allé à des salons, on est allé à Tinqueux, on est allé découvrir des gens, on est allé et puis au fur et à mesure, mais quand vous découvrez quelqu'un, c'est ce qui se passe dans la lecture, cette personne-là vous fait découvrir quelqu'un d'autre et ça n'en finit pas. On disait tout à l'heure ce midi à table, au début quand on venait à le marché de la poésie, on était très mal à l'aise parce qu'on connaissait personne, on avait l'impression que tous les gens se parlaient entre eux et que nous on était un peu des extraterrestres. Et maintenant quand on arrive, eh ben, on peut saluer plein de gens parce qu'on a fait des découvertes, parce qu'on a travaillé, on a accueilli Françoise Ascal en résidence qui nous a fait découvrir d'autres auteurs, on a travaillé avec Denise Deshôtels, on va travailler avec Jean-Pascal Dubosc, on va travailler avec... Enfin, je sais pas, j'arrive plus à tous les nommer parce qu'on a travaillé avec tellement de personnes que je peux même pas dire maintenant, ben, je connais tel ou tel éditeur ou tel auteur parce qu'en fait, chacun vous ouvre une autre porte. Et on peut pas se former de façon théorique. Bien sûr, on peut se former, on peut apprendre tous les éditeurs. Tel éditeur fait telle chose, tel éditeur travaille avec tel auteur. Mais est-ce que c'est vraiment ça qui fera vivre les livres? J'en sais rien. J'estime, je n'ai pas une compétence particulière, mais en plus, c'est quand même facile sur ces domaines-là. Moi, je me suis aussi occupée du théâtre. C'est quand même pas immense. C'est quand même pas des fonds immenses. Donc, quand on est bibliothécaire, on doit pouvoir quand même se repérer assez facilement. Voilà.
Et oui, vous parlez de découverte et du rôle de passeur qui est extrêmement important. Est-ce que vous ne pensez pas, ou vous le faites peut-être dans vos espaces respectifs, d'organiser des lectures, par exemple, de poésie, des événements, parce que c'est vrai, il faut faire, mais il faut écouter, il faut entendre surtout des textes.
Alors nous, on a un gros, ce que je vous ai dit, un 10% du budget de l'action culturelle. J'ai un budget à peu près de 100 000 euros. En fait, c'est pour faire des chiffres, mais ça fait sérieux un peu. Donc on a 10% qui est consacré à des actions culturelles. On a un gros travail qui est fait en direction des collégiens. L'idée, c'est de former les enseignants qui vont accueillir. Alors, former, pas former dans le sens théorique du terme, c'est-à-dire qu'ils expérimentent une lecture, ils découvrent un auteur, et ensuite, ils vont pouvoir travailler avec leurs élèves autour de cet auteur. Donc, et on fait écouter, en effet, on travaille aussi avec une compagnie de théâtre qui s'appelle la compagnie Bouche B, et on choisit aussi avec ce metteur en scène les auteurs. C'est-à-dire que ça aussi, c'est un partage. C'est-à-dire qu'on ne va pas lui imposer un auteur qu'elle n'aura pas envie de travailler avec nous. Donc on fait... En fait, j'allais dire, on passe notre temps à lire, en fait. Mais à lire en se disant, on va le proposer. Donc c'est des lectures, voilà. Et on lit, et Julia arrive et un matin, elle me dit, ah, mais ça, ce livre-là, voilà, lis-le. Et Nathalie, enfin voilà, ça circule, les livres circulent, et c'est comme ça. Et du coup, Anne Contensou dit « Ah oui, j'ai bien envie de défendre. » Donc l'année prochaine, on va sans tout travailler autour des livres de Fabienne Hiver et de Jean-Pascal Dubost. Mais on a travaillé cette année, ça y est, je vais avoir oublié. Merci, autour d'Itonaga et de David Dumortier. On a travaillé avec Dominique Camillard. Enfin voilà, voilà. Et donc on travaille, quand on décide... Puis on aime bien cette idée d'univers d'auteur. C'est-à-dire on travaille d'un coup autour de tous ces textes. Et on essaie de trouver avec cette metteur en scène comment on peut... aider, accompagner, parce que aider, je ne sais pas, mais ou créer des petites pistes qui font que les adolescents vont entrer dans ces livres-là. Et c'est incroyable parce que là, après c'est anecdotique, mais là, on a travaillé avec David Dumortier et à La Ferté-Gaucher, par exemple, il y a un élève qui a dit au professeur, il a dit, mais moi, je ne peux pas finir l'année si vous ne me donnez pas le livre, Mehdi du Rouge à Lèvres, parce que ça a bouleversé ma vie. Voilà. Mais voilà, ça on peut pas le prévoir, et on lui a pas dit qu'il allait lire de la poésie. Voilà. Donc on fait ça, on fait tout un cycle autour des collégiens. On accueille aussi des auteurs en résidence, ça c'est vraiment très important. Et beaucoup de poètes. Là, il y a Fred Griot qui va commencer sa résidence. Et cette idée de la résidence, c'est aussi important parce que c'est une autre façon d'entrer dans la littérature. Parce que quand Françoise Sascal est venue, par exemple, au parc culturel de Rantilly, c'est un temps long. C'est 10 mois. Pendant ces 10 mois, elle va nous faire rencontrer aussi ses compagnons de route en littérature. Et ça permet aussi au public une autre entrée accompagnée par un auteur. Et pas justement dans la prescription du bibliothécaire ou du professeur ou du libraire. Voilà, ça aussi c'est très très important. Après, on travaille aussi beaucoup avec le musée départemental Stéphane Mallarmé. On a la chance que cette maison soit sur notre département. Et là, pareil, on a fait une opération qui était assez amusante, qui s'appelait Des poèmes adressés avec Jacques Jouet, Benoît Cazas, Cécile Rioux, Jean-Paul Honoré, qui sont venus pendant un temps écrire des poèmes pour les habitants de Vullaine. Et chacun, parce que Jacques Jouet disait, bah oui, on n'arrête pas de dire que les gens lisent plus de la poésie, bah on va les obliger à en lire, ils vont recevoir un poème dans leur boîte aux lettres, et finalement, il y aura énormément de lecteurs de poésie. Et donc, on a fait ça sur voilà. Et donc, ils ont reçu un poème et après, ils sont venus. On a fait, voilà.
Non, mais Valérie, c'est extraordinaire. Mais il faudrait que toutes les médiathèques de France soient comme vous. Et à ce moment-là, on n'aurait pas de problème de débat de poésie. Non, mais c'est vrai. À partir du moment où c'est manifestement et clairement une stratégie cohérente et intelligente de dédramatiser la problématique de la poésie et aller vers les gens avec un texte de qualité et des gens et des auteurs vivants présents, qui fait que les gens ont un accès à la poésie et entendent cette parole-là.
Mais ce sont des auteurs, enfin voilà, je pense que c'est aussi cette idée-là, c'est de ne pas trop cloisonner. En fait, quand l'auteur est là, il est en résidence, ça fonctionne. Enfin.
Mais alors, question, pour le temps passe, donc on va aussi demander au public s'il y a des questions, mais qu'est-ce que vous pensez qui... Qu'en est-il de la diffusion du livre de poésie et techniquement en bibliothèque, non pas comment faites-vous, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour faire bouger les lignes au niveau du livre? Là, j'ai bien entendu ce que vous dites au niveau de la médiathèque, le caractère prendre le sujet en main, vous aller vers les écoles, les collèges, les lycées, les professeurs et les entités sociales vivantes, mais qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que, qu'est-ce qui est un frein à une plus large diffusion du livre en poésie, en librairie, en bibliothèque, et comment faire bouger les choses? Qu'est-ce que vous préconiseriez?
Je vais me lancer, je vais encore prendre un peu à contre-pied, mais je me suis creusé la tête et je me suis dit que ce serait magnifique, là, d'un seul coup, dans les jours et les nuits qui viennent de passer, d'avoir trouvé la solution. J'ai quand même la sensation qu'il y a beaucoup de choses qui sont mises en place, qui sont mises en œuvre. On le fait probablement tous, vous et nous, à chaque endroit où on est impliqué dans cette chaîne-là du livre. Là, en librairie, on se trouve à un endroit qui est un peu tout au bout, mais on est quand même inclus dans une société générale et je ne vois pas comment on pourrait... ne serait-ce que suggérer, il faudrait que les gens, en gros ce serait ça, fassent ceci ou cela. Alors, parce que ça, vous avez relevé la presse, et en effet, il s'agirait de modifier quelque chose chez les critiques dans la presse. Ça supposerait probablement aussi de travailler auprès de l'éducation nationale, dans l'enseignement, comment ça se joue. Pour ce qui est de la poésie contemporaine, moi j'ai cru comprendre qu'après Éluard Prévert, ce n'était pas trop non plus lu à quelques exemples près, mais que ce n'était pas non plus très présent. Sachant que justement, il ne s'agit pas de jeter la pierre sur tel ou tel espace à cet endroit-là de nos vies. Ça nous implique tous. Je me disais finalement, quand est-ce qu'on a cette présence-là de la poésie? Je me disais très concrètement, quand dans nos quotidiens, on se met à dire un poème, parce que... Ah ben là, je peux... C'est un mariage ou un enterrement. Et finalement, ça évoque quelque chose de très, 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 très vaste. Et je serais bien en peine et je n'ai pas très envie, en fait, de me dire qu'est-ce qu'on devrait faire. Il y a quelque chose d'une espèce d'injonction, comme s'il fallait qu'on trouve une solution, en fait. Peut-être qu'en fait, il n'y a pas de problème, ou il ne faudrait pas le poser comme tel. En plus, il se passe énormément, énormément
tout
de
baigne,
choses. Non,
ça.
Tout baigne pas, mais... Non, loin de là.
L'injonction n'est pas, il faut trouver une solution, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer les choses? Moi, j'ai entendu de la part de Valérie, il faut avoir une stratégie non pas de non-catégorisation et d'essayer d'aller vers les gens avec le texte et l'auteur.
On le fait tous. Je ne sais pas, Olivier, dans son quotidien, nous, on a fait une résidence avec Thomas Pell, qui est peintre et poète. Ça a duré 10 mois. Il est venu, lui, il n'habite pas du tout à Paris. Et d'ailleurs, là, il est reparti sur un bateau. Bien sûr... On a fait ça sur 10 mois. On a fait hier une rencontre pour un livre aux éditions Une, il y a un mois ou deux avec les éditions Isabelle Sauvage, avec les éditions Five Fioc. Voilà, on a en effet tout un programme de rencontres, même si moi à chaque fois j'en suis heureuse et de ce qui s'est passé et de ce qu'on programme à chaque fois, j'ai quand même un sentiment de frustration ou ces espèces d'événements où très souvent on se met encore à parler, c'est-à-dire qu'on a encore un discours sur un texte, et moi c'est beaucoup. j'ai une confrontation avec l'Église. On a ces petites choses ponctuelles. On a le travail qu'on fait de lecture, de lecture, de lecture, de lecture, de discuter avec tout le monde. Et maintenant, on se met à discuter de ce dont on discute pour parler des livres. Moi, je me sens un peu frustrée par rapport à ça. Et en même temps, je refuse d'y voir un problème. Tout ça existe. Les éditeurs publient et les auteurs écrivent. Il ne s'agit pas de nier que, évidemment. Mais en même temps, on se réfère à quelle époque ? Y a quoi ? Par rapport aux années 80, aux années 70, aux années 20, avant 1900 ? Quel serait cet âge d'or qu'il faudrait peut-être récupérer ? Ou est-ce qu'il s'agit d'un âge d'or qu'il faudrait retrouver ? Est-ce qu'il s'agit d'une espèce de projection de la poésie devrait se diffuser, mais c'est-à-dire par rapport à quoi et combien plus ? Est-ce que déjà elle n'est pas tellement présente ? Bien sûr, ça pourrait être plus, mais si je pense dans les années 1920, ça devait, la diffusion de la poésie, ça devait être encore sacrément quelque chose. Et quoi donc ? Par contre... De ce que c'est que notre quotidien, nous, et de... Est-ce que... Je ne suis pas très au point là-dessus. Des pays ou des cultures où la poésie est quelque chose de beaucoup, beaucoup plus pratiqué dans une immédiateté, une familiarité. Alors, est-ce que ce serait de ce côté-là ? J'ai un collègue qui m'a dit que lui, 80% de ses amis, s'il leur conseille de la poésie, c'est un non immédiat. Et la réponse étant que c'est un truc d'entre-soi, que c'est une forme de snobisme. Alors, est-ce qu'il y aurait quelque chose sur l'image qu'on associe à la poésie ? Peut-être. Mais donc, du coup, si il s'agirait de changer des mentalités, c'est considérable. Et pour le coup, par quel bout prendre ça ? Ouais, c'est un peu frustrant ce que je dis, je suis désolée.
Olivier, vous voulez dire quelque chose ?
Non, mais moi je suis d'accord parce qu'en Italie, par exemple, on lit beaucoup plus de nouvelles et de poésie qu'en France. Et la poésie, beaucoup moins, y a moins cette coupure qu'on a après l'école. Parce qu'en France, il y a au programme, j'ai pas fait l'école en France, mais enfin je vois les gamins qui m'achètent des livres. Et au Canada, on ne lisait pas beaucoup de poésie à l'école, hein, je peux vous dire, encore moins qu'ici. Mais il y a des prescriptions, voilà, bon. On vend énormément de poésie et théâtre pour les écoles. Or, après, plus personne, à part Duringer et encore, ou Mouhawad, on lit pas de théâtre, très peu, c'est la même chose, et très peu de poésie. Après, est-ce qu'il faut des mesures, est-ce qu'il faut mettre tout ça sous perfusion ? Je ne sais pas. Moi, je crois que c'est très difficile de dire qu'il faut sauver le soldat poésie. Je pense que la poésie, elle vit de toute façon. Elle a une vie réelle. Il y a effectivement, quand on fait des soirées de poésie, c'est un réseau de poètes et des gens convaincus. Oui, ça fait un petit côté entre soi très souvent. Comme je disais tout à l'heure, on a souvent un blocage quand on veut conseiller de la poésie. Et je crois qu'il faudrait, nous en tout cas, il faut faire un mea culpa. Mais comment faire ? Comment faire pour... tordre et créer du désir sur quelque chose dont on ne veut pas. Bon, faudrait être très lacanien. Mais c'est très difficile. Mais c'est ça, c'est de donner la définition de l'amour selon Lacan. Oui. Hein, donner ce qu'on n'a pas à quelqu'un qui n'en veut pas. C'est un peu ça. Et la poésie, c'est un peu le problème auquel on se heurte en librairie. Et je n'ai pas encore trouvé la clé.
Plutôt donner ce qu'on a avec quelqu'un qui n'en veut pas ici.
Peut-être, oui.
Bon, mais peut-être que dans la salle, il y aurait des questions de gens qui auraient envie d'interroger... les uns ou les autres.
Je voulais m'adresser donc à la libraire, j'ai oublié son nom.
Natacha,
pardon. Donc je suis journaliste à Livre Hebdo, donc il y aura un article au moins. Je voulais vous demander par rapport au taux de rotation dont vous parliez tout à l'heure, 44%, c'est en raison des rencontres, des actions que vous menez vous également dans votre librairie, comme en bibliothèque du côté des bibliothécaires, on en fait
Le 44%?
Je ne sais pas, en fait, justement, je me demande.
J'ai un vrai problème de micro.
Non, c'est moi qui ai annoncé qu'il y avait 44% du fonds des livres de poésie qui étaient empruntés chez nous.
Ah, d'accord, pardon. Excusez-moi. Donc, ça ne va pas être très exact.
Qui est normalement de 2% en bibliothèque, et du coup, c'est on a une moyenne très élevée, mais... Due aux actions qu'on mène, oui.
En tout cas, vous...
Nous, c'est bien. On fait un chiffre
volume.
D'affaires de 4% pour un pourcentage national qui est évalué 0,5. En 2014 0,5. À 0,5.
Avec le théâtre.
Le 0,5 incluant le théâtre, le 4% que je vous donne n'incluant que la poésie.
Bon.
Je voulais redonner.
Et dans le 05, il y a les poètes vivants et les poètes moins vivants, ouais, puisque morts. Ouais.
C'est ça. Est-ce que vous menez plus d'actions, vous, dans votre librairie, à tourner plutôt vers la poésie?
Plus d'actions par rapport à d'autres librairies,
par rapport,
j'imagine,
à d'autres librairies, oui, par rapport à des rencontres, par rapport à...
J'ai pas fait de recherche là-dessus, donc je crois qu'il y a vraiment beaucoup de librairies. Je pense particulièrement à la librairie Texture, qui est au métro Laumière dans le 19e, et qui est une immense lectrice de poésie. Mais disons qu'en tout cas, même sans comparaison, je sais qu'on a une proportion entre, par exemple, les sciences humaines et la poésie qui doit être 2/3 de poésie pour... Non, qu'est-ce que je raconte ? Ouais, je sais pas. Peut-être que pour 3 rencontres sciences humaines, on en fait 2 en poésie. Voilà. Si ça vous donne un ordre d'idée. Mais puisque ça fait partie, nous, de nos lectures et des éditeurs qu'on aime suivre et de la littérature qu'on aime suivre, alors bien sûr, ça fait partie de notre quotidien, donc ça revient de façon récurrente dans les rencontres. C'est-à-dire ça se répercute. Entre ce qu'on lit et les rencontres qu'on fait, il y a une équivalence. Oui ?
Est-ce que vous trouvez, puisqu'on en parle, que les poètes sont plus actifs pour soutenir leurs textes que les romanciers ?
Non, pas particulièrement. ceux qui me semblent moins, pour qui c'est moins évident d'intervenir en librairie, ce sont justement les auteurs de sciences humaines, il me semble. C'est-à-dire, ils ont l'habitude d'intervenir dans d'autres espaces, dans des colloques, des conférences, de ce qu'on appelle les débats. En librairie, ça devient plus fréquent, mais ça l'est moins. Mais c'est vrai qu'il y a une grande disponibilité des poètes à être présents, bien sûr, mais au même titre que plein de romanciers. Je ne saurais pas donner de primauté.
Moi, le sentiment que j'ai, c'est que quand on vient du roman, ce qui est mon cas, et qu'on tombe, si je puis dire, en poésie, on a beaucoup plus d'efforts à faire que pour le roman. De fait, puisque économiquement, c'est plus facile pour le roman, mais en poésie, il faut porter son texte, il faut payer de sa personne.
Si je puis intervenir alors avec les petits problèmes de micro, je voudrais quand même revenir sur un paradoxe qui est qu'on parle de la poésie, du fait que on s'intéresserait pas à la poésie, que les gens s'intéresseraient pas à la poésie. Moi, je voudrais quand même souligner une autre réalité qui est que la poésie est très vivante, pas seulement dans le secteur éditorial, mais dans le secteur local. Il y a énormément d'associations. Sur Internet, on a énormément de choses qui se font et qu'il y a très peu de communication entre ces secteurs. J'ai vu une interview il n'y a pas longtemps, alors je n'ai plus le nom de la personne interviewée, qui disait qu'en gros, il faudrait qu'il y ait des fonds, qu'on oblige pratiquement les fonds de bibliothèque, les bibliothèques à avoir des fonds de poésie. Bon, c'est un peu coercitif et je ne suis pas sûr que ce soit très productif. Et qui plaidait pour une taxe sur la micro-édition. Je n'ai pas compris ce que c'est que cette taxe sur la micro-édition. Mais si je l'entends comme je l'entends, c'est-à-dire comme quelque chose qui distinguerait les éditeurs qui ont le label éditeur de toutes les formes hybrides qui existent aujourd'hui, je pense que ce serait une erreur fondamentale, parce qu'aujourd'hui, s'il y a une solution, une réponse à apporter, elle est dans la rencontre, ce qu'on disait tout à l'heure, et la rencontre nue des gens les uns avec les autres, simplement, enfin pas nue au sens nudiste, hein, bien sûr, mais ce qui fonctionne, ce que j'ai vu fonctionner personnellement comme rencontre, c'est quand le poète arrive, lit des textes, parle de ce qu'il fait, et là, les barrières tombent. J'ai rencontré Claude Mouchard, qui est un très grand poète et directeur de la revue Poésie, qui a un style extrêmement complexe. On parlait d'immigrants, il a beaucoup travaillé sur la question d'immigrants. Il a fait un texte qui s'appelle « Papier, point d'exclamation », qui est introuvable aux éditions Laurence Tepper. Il est venu à Cergy-Pontoise, il y avait une trentaine de personnes qui étaient présentes, ça a été un moment absolument intense. Et là, les gens ne se sont pas posé la question de savoir, effectivement, poésie contemporaine, pas contemporaine. Je reviens juste sur la formation, parce qu'effectivement, si j'insiste, on a besoin de formation. Ce n'est pas simplement de connaître le catalogue des éditeurs, c'est de connaître l'histoire des idées. Parce que quand vous avez un auteur qui se présente comme la poésie contemporaine, qui vous explique que c'est ceci, ceci, cela, eh bien, excusez-moi, moi, j'ai besoin aussi qu'effectivement, j'ai des points de repère pour savoir qu'il ne dit pas la vérité. Et c'est un milieu qui est quand même très fermé. Et ça, c'est un point aussi, c'est un véritable frein. Je veux dire qu'effectivement, les hommages à Michel Butor, qui est décédé il y a quand même très peu de temps, il n'y en a pas énormément. Les hommages à Jean Grosjean, qui est décédé en 2006, il n'y en a eu pratiquement aucun. Et je parle de deux monstres de la poésie contemporaine qui sont absolument ignorés par leur père, qui sont en train de se déchirer sur le site Citodis. C'est ça le frein aussi à la diffusion de la musique. C'est ça le frein aussi à la diffusion de la musique. C'est un des freins, ce n'est pas le seul, hein, bien sûr. Mais on ne peut pas lever ce point-là.
Mais c'est certain que la solution, si je puis dire, n'est certainement pas dans le déchirement. Elle est plus dans, et je pense que ça pourra être une bonne conclusion, dans la rencontre. C'est-à-dire qu'en tout état de cause, il y a de nombreux et beaucoup, la poésie est très très riche en France, et il y a beaucoup de poètes vivants, écrivants, et c'est cela qu'il faut rencontrer, rencontrer les gens en utilisant toutes les tactiques, pas les stratégies, mais toutes les tactiques possibles pour que ces rencontres aient lieu.
J'avais juste une petite précision, c'est par rapport à cette taxe sur la micro-édition. Là, en fait, c'était dans l'IB, par rapport au marché de la poésie, il y a eu un petit malentendu. La chose a été corrigée sur Internet, mais l'édition papier était déjà faite.
Mais on pourrait imaginer une taxe Taubin qui serait dédiée à la poésie, par exemple.
Okay, oui, parce que c'est quand même un point qui peut être assez sensible, étant donné que c'est l'initiative locale aussi qui a derrière toutes ces formes de micro-édition. Et qu'en travaillant sur le... Il y a quelques années, j'ai travaillé sur le livre numérique. J'ai été président de l'association Carrel. Et là, le livre numérique, c'est aussi un grand point d'interrogation pour les bibliothèques, pour les librairies, pour les lecteurs, pour le livre, avec le spectre d'Amazon. Et là, pour le coup, j'ai milité. J'ai milité pour dire, attendez, le problème, il n'est pas de savoir si on va se faire amazonifier, le problème, il est de savoir si on a une intention politique de construire un espace social de la culture. Il faut que dans les territoires, on ait des bibliothèques, des librairies, des auteurs qui puissent s'organiser, qui puissent vivre, faire leurs choses. Il faut qu'on ait ces verrous-là, enfin, ces non-verrous, justement, qui font circuler, parce que la culture, c'est de la transmission. C'est de l'échange. Derrière un livre que vous avez lu, il y a quasiment toujours quelqu'un qui vous l'a conseillé, que ce soit un libraire, que ce soit un proche. Donc, travailler sur cette zone, cette notion d'espace social de la culture, je crois que c'est vraiment ce qui est primordial aujourd'hui pour défendre et le livre, et la poésie, et du coup le livre de poésie.
Mais vous aurez remarqué que la culture a fait grandement partie de cette campagne électorale présidentielle, et qu'elle fait encore partie grandement de cette campagne des législatives, et on remercie tous ces politiciens de s'intéresser aussi sérieusement à la culture.
Je voudrais dire un dernier mot à propos de Manuel Dole, puisque je n'ai pas beaucoup parlé pour lui et avec lui. Manuel Dole a donc créé il y a quelques années une librairie qui s'appelle le Marulaz à Besançon, qui est une librairie qui était uniquement dédiée à la poésie. Sa tactique à lui, c'était d'associer sa librairie à un café-restaurant. Et c'était un lieu de convivialité, c'est exactement dans le même esprit que retourner le problème, c'est-à-dire les gens venaient boire un verre et avaient le temps de voir des livres, s'installaient et lisaient. Et ils n'avaient que des livres de poésie. Et il pratiquait le dépôt. Et ça marchait très bien, d'après ce qu'il m'a dit. Et je peux évoquer aussi quelque chose que, personnellement, je fais avec une librairie en Loire-Atlantique, qui est un festival qui est dédié aux sciences et à la poésie. Et dans un lieu absolument désert en matière culturelle, le fait qu'on sait qu'on va avoir des conférences scientifiques de très bon niveau sur un sujet environnemental, les gens viennent et viennent à la poésie. Par effraction d'abord, et ensuite parce qu'ils se rendent compte que c'est pas du tout terrifiant. C'est des gens qui écrivent des belles choses et c'est intéressant. Voilà, je pense qu'on peut vous remercier d'être venu et remercier tous nos invités de leur apporter leurs compétences. Et merci.
Dans quelques minutes, il y aura la remise du prix Copeau organisée par La Factory à 19h précise.
l'EHR ?
Oui.
Merci. Monsieur Saïd, vous êtes demandé on the stage, please. Mais où ? On se sent tranquille. Il me semble que je vous dis.
Eh bien, nous nous retrouvons pour la remise du prix COPO organisé par la Factory. Je laisse la parole à Patrick Verschuren, qui tourne le dos au public. Ça ne se fait pas. Ah bon, on attend encore une personne. Et on commence. Eh bien, je laisse donc la parole à Patrick Verschuren.
Merci, Vincent. Eh bien, écoutez, merci de votre présence. L'idée, c'est juste de présenter très rapidement le prix COPO et le prix COPO des lycéens. Le prix COPO a été créé en 2014, il n'y a pas très très longtemps, par la Factory Maison de Poésie de Normandie. L'idée, c'était de réunir un certain nombre de gens qui étaient des passionnés de poésie, des lecteurs, des bibliothécaires, des comédiens, tous ces gens qui s'intéressaient de près ou de loin à la poésie, aussi des écrivains, des auteurs, et de constituer un comité de lecture de la poésie qui s'appelait le COPO, qui était d'abord destiné à choisir les textes qui nous intéressaient pour inviter les poètes à la Factory Maison de Poésie. Et un peu plus loin, j'ai dit peut-être qu'on peut être plus incisif et essayer de vraiment être un soutien à la poésie et d'aider d'une façon ou d'une autre en donnant un peu de monnaie à des poètes afin de les aider dans leur travail d'édition et d'essayer également d'en parler au niveau médiatique dans notre région de manière à ce qu'il y ait un élan qui soit donné à la poésie. La première année, donc, le premier prix créé a été attribué à Saïd Mohamed, qui est sur le plateau. Donc, en 2014, le tout premier prix COPO, donc on se réunissait à Rouen, à la maison d'architecture de Rouen, et c'est CBA, le cabinet d'architectes, qui a attribué la somme de 1000 euros à Saïd Mohamed. Saïd, si tu veux bien nous dire un mot à cette occasion.
Donc, le prix COPO était une surprise pour moi, puisque Patrick Verschuren, ici, a demandé à mon éditeur des exemplaires de mon bouquin. Et j'ai dit à mon éditeur, écoute, de toute façon, qu'une chance d'avoir le prix. Et je l'ai eu. Et un chèque, effectivement, de 1000 euros, c'est toujours très agréable. Et puis, non seulement ça, mais derrière, il y a vraiment un travail de fond qui est fait avec la Factory, qui est devenue maintenant la Maison de la Poésie de Normandie. Un travail de fond dans les écoles et l'accompagnement. C'est-à-dire que l'auteur qui est choisi pour le prix COPO, l'année d'après, est parrain du Printemps des Poètes. Donc il y avait tout un travail pendant une semaine dans les écoles, dans différents lieux, avec des lectures et des rencontres avec le public. Et ça, c'est vraiment un travail de fond intéressant, ce que je peux dire. Et le prix COPO m'a redonné confiance dans mon travail, ce que j'avais perdu depuis un certain temps.
Merci Saïd. Alors, ce qui est de dire dans la composition du COPO, nous sommes 14. Peut-être qu'il y en a parmi vous qui ont envie de rejoindre le COPO et ce sera avec plaisir. C'est un comité qui est complètement ouvert. On travaille en binôme, on lit les textes à deux et ensuite, à partir du moment où on a apprécié à deux le texte, on le repropose à un autre binôme et ainsi de suite. Et on sélectionne 8 textes en octobre. Dans les 8 textes sélectionnés, on va les soumettre aux lycéens, à 5 lycées de la région normande qui eux-mêmes vont faire la lecture des textes, de ces 8 textes, et puis choisir leur poète favori. Je voulais aussi préciser que la présidence est une présidence tournante pour éviter que les choses s'embourbent et que ce soit toujours un peu la même chose. Donc c'est Jacques Fournier qui a été le président du prix COPO de cette année. Donc Jacques, je te laisse la parole.
Non, mais ça y est, non, merci. Oui, président, j'étais très surpris d'ailleurs, je ne m'y attendais pas du tout, lors de la réunion, la dernière réunion, celle du 21 mars, j'ai appris que j'étais président de cette noble assemblée constituée de tous ces membres, de toutes ces personnes de différents horizons. Parce que tout simplement, voilà, il y a un choix qui est fait par ordre alphabétique, c'est ça Patrick, hein, je crois. Voilà, et ça tombait sur la lettre F, donc c'était moi. Voilà, alors être président d'un prix comme le prix COPO, j'ai trouvé ça très intéressant. C'était pas la première fois que ça m'arrivait. Parce que justement, les propositions viennent, les 8 recueils retenus, c'est vraiment un choix très éclectique, très ouvert, très large. Et on est censé les avoir lus avant, bien sûr, cette réunion. Et puis, Malgré tout, lors des discussions, des échanges, des différents tours de vote, inévitablement, on se replonge dans la lecture d'extraits, et puis on écoute les arguments des uns et des autres. Et ça se fait toujours dans une grande intelligence, inévitablement. On est entre adultes, on va pas se taper sur la tête avec les bouquins, ça ne sert à rien. Non, c'est pas tapé, quoi. Après, autour du verre. Mais voilà, au moment des discussions, avec un président qui a su modérer les débats, inévitablement. Non, je blague. Oui, mais je crois qu'il faut savoir aussi, ben voilà, y a une distribution de paroles. L'intérêt aussi, c'est quand même que le président, il est le dernier à voter. Donc c'est quand même à lui qu'appartient la décision, parce qu'inévitablement, être le dernier à voter, ça permet de départager voilà, l'avantage de l'un ou des avantages de l'autre, même si sur les 8 recueils sélectionnés, il y en avait énormément qui me tenaient à cœur, pour des raisons diverses, parce que les écritures, justement, cette multiplicité d'écritures fait qu'il n'y a aucune chapelle à défendre. Et que inévitablement, quand on lit un recueil, quand on lit un poème, ce qui fait que l'on va le retenir, c'est ce qui va d'abord nous toucher. Ça paraît tout bête de dire ça, c'est très con même de le dire, mais c'est l'émotion d'abord et avant tout. Moi, c'est comme ça que je fonctionne. Il faut que ça me parle. Si ça ne me parle pas, si ce que dit le poète ne me parle pas, je ne vais pas en parler. Voilà. Donc, ça s'est fait avec de cette manière-là. Et puis, 3 tours, c'est ça, on a fait 3 tours de vote, et puis on est sorti un livre pour le prix Copeau, parce qu'à côté de ça, je crois que tu vas parler de l'autre prix Copeau des lycéens.
Oui, on va quand même parler de ce tout premier, puisqu'il s'agit de Sabine Ouin avec son livre Quarlo, qui a été publié par Ancrage dans un très très bel ouvrage d'Ancrage. Et là, on voit vraiment le travail de l'éditeur et l'importance du travail de l'éditeur dans cette présentation.
Roland Chopard a son stand là-bas derrière et il est venu nous rejoindre pour montrer le livre aussi. Alors,
Sabine Ouin n'a pas pu être présente avec nous. Elle vit à Tel Aviv. Elle est venue pour la remise du prix Copeau en Normandie, mais malheureusement, elle ne peut pas être présente aujourd'hui. Et c'est Jacques qui lira d'ailleurs ses poèmes aujourd'hui. Bon, je sens que vous êtes déçus, c'est normal.
Je ferai de mon mieux.
Ouais. Et personne ne peut la remplacer.
Peut-être un mot avant. Alors, de la part de Roland pour en parler un petit peu.
Juste avant, je voulais dire que ce livre nous a vraiment beaucoup touchés. Et ce que j'ai trouvé formidable dans ce livre, c'est qu'elle considère que nous n'avons pas assez de mots, qu'il manque du vocabulaire dans nos langues et que nous avons besoin de toutes les langues du monde pour nous exprimer. Et elle va donc rechercher en hébreu le mot « quarlo » qui n'existe pas en français. Elle va rechercher partout un langage qui nous permet de toucher des choses profondes de nous-mêmes. C'est quelque chose que j'ai trouvé absolument formidable. Elle a une langue très hachée, très discontinue, qui s'est même démontrée quand elle est venue, et j'ai trouvé ça vraiment très, très troublant. Donc si l'éditeur peut nous parler de ses choix, ce sera avec un grand plaisir.
Oui, moi j'ai été très heureux de publier ce livre. Effectivement, c'est tout ce travail sur les langues qu'elle manipule. Hein. Originairement, elle vient du Vietnam, mais elle ne parle pas le vietnamien. Elle est venue en France, elle parle français, elle parle anglais, elle parle maintenant l'hébreu. Et effectivement, on dirait qu'elle a besoin de toutes ces langues. Y a certaines choses qu'elle peut exprimer en français, et d'autres en anglais, et d'autres en hébreu. Hein. Je crois que c'est les 3 principales. Et tout ce jeu qui crée aussi un malaise pour elle. Hein. Ça crée un malaise dans sa vie et dans son écriture, hein, c'est évident. Donc moi j'ai été très sensible à ça et j'ai pris à cœur de publier ce livre qui est illustré, hein, vous avez vu, par Caroline François Rubineau qui est là, elle est là. Moi je ne peux pas remplacer Sabine Ouin, hein, malheureusement. Mais ça fait un peu comme au cinéma, quand l'acteur n'est pas là, c'est quelqu'un d'autre qui prend le prix. On ne va pas jouer à ça. Non, Sabine a une très belle écriture et moi, je suis très heureux d'avoir pris le temps de publier ce livre. On a des méthodes très artisanales. Il faut composer en linotypie sur une vieille machine. Donc, j'apprécie les textes comme ça, de très denses et courts. Et non, je dois dire que j'ai vraiment pris un plaisir à fabriquer ce livre. parce qu'on peut dire fabriqué, on peut dire, voilà, avec nos méthodes artisanales, on arrive à faire des beaux livres.
Donc Jacques va nous lire des extraits de Quarlo.
Tu es né d'un ventre, près d'un fleuve rouge, qu'aucune mélopée ne faisait plus vibrer. Venu au monde sans mémoire dans l'absence d'une langue de cœur, tu es clochette fendue, échouée au silence de gorges enneigées. Désarmé, tu, silence. Sur ce qui s'est passé. Te construire sur ce Gvarlo, ce qui n'est déjà plus, en rassemblant ce qu'il te restera de vocable pour tenir droite, illusion en équilibre, sur ce rien échangé entre elle et toi. Le maelstrom d'un temps révolu étourdit tes pensées. Entre toi et là où te mène le voyage, sans encre, l'éboulis des mots chus dans le paysage. Valent-il mieux que les pierres qui forçaient la distance entre le verbe et toi? Buvant à la source des secousses, te voilà au fin fond de l'errance sur le point de basculer de l'autre côté, silence. Rage de dents sans lait, dans ta bouche raide, sans mots, close et maudite, en mal d'amour, laide, que le sourire a fui. Nul besoin de savoir qui tu es pour sentir cette séparation lancinante. Ta mère te nouait gorge et langue, te coupait veste carrée, t'exécutait pull serré, te cousait robe raide, les lèvres, entre vous, une couture desserrée depuis la déchirure. Attrition de ce que vous aviez en commun, ce presque dire précédant la parole. Ruine. Un jour, on t'a dit en hébreu, tu as vécu ta propre Shoah. Au fond de ta gorge, parfois des murs se veulent horizon avant le voyage, car les hommes frappés d'amnésie croient pouvoir dompter les vents. Ceux qui s'éloignent des,